CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Le festival des hivernales du documentaire frappe un grand coup ce samedi 12 janvier. Ça va se passer cette fois-ci du côté de Verlac-Tescou. Les hivernales du documentaire, festival de documentaires itinérants qui propose à tout un chacun de venir s'approprier des œuvres cinématographiques hors du commun, et ce dans tout le pays Midi-Quercy. Alors donc là, Verlac-Tescou, c'est une grande première pour ce village. Et pour célébrer tout ça en grande pompe, on a une double projection à propos de Jean Zé. Alors Jean Zé, on va avoir un documentaire à partir de 17h. Jean Zé, un crime français, un documentaire de Catherine Bernstein, suivi à 19h d'une auberge du documentaire. Alors là, les gens, il vous faut ramener de quoi manger et partager le tout dans une très bonne ambiance conviviale. Et à 20h30, une lecture spectacle, Les écrits de prison de Jean Zé, interprété par Yves Mugler, qui est avec moi. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Vous êtes lecteur, vous exercez en tant que comédien et voix off pour la radio et la télévision. Mais avant de vous poser des questions à ce propos, on va parler un petit peu de ce fameux Jean Zé. Donc Jean Zé qui a fait de la politique dès sa majorité, qui a été ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de 36 à 39. Il avait 32 ans, le monsieur, mais étant d'origine juive, il a été assassiné par la milice. Sachant que avant ça, il a démissionné donc de ce poste de ministre en 39 pour suivre sa classe d'âge au front. C'est à ce moment-là qu'il a été accusé de désertion et avant d'être réhabilité, je le disais. Il a écrit pendant son incarcération, Souvenirs et solitude, un recueil qui a été publié seulement en 45 à la Libération. Yves Mugler, je vais vous demander de m'en dire quelques mots avant de parler du personnage plus en profondeur.
Oui, alors déjà juste une précision, c'est vrai que l'histoire raconte qu'il avait des origines juives. En fait, son grand-père, je crois bien, était juif, mais toute sa lignée maternelle était protestante, en fait. Donc c'est vrai que quand l'extrême droite lui est tombée dessus, ils ont un petit peu fouillé dans le passé et on l'a taxé de ce point de vue-là sur un aspect antisémite. Mais il n'était pas juif et pas pratiquant de toute façon.
D'accord.
Mais c'est un homme effectivement absolument incroyable. C'est une espèce de brillance, un ovni, si j'ose dire, de la politique française, et un homme vraiment hors du commun qui a peut-être pas son équivalence dans l'histoire politique. Qui donc, comme vous l'avez dit, a été ministre d'Éducation nationale très tôt, hein, à l'âge de 32 ans, et il va faire tout un tas de choses en si peu d'années, là, entre 36 et 39. Il va inventer le Festival de Cannes pour concurrencer la Mostra de Venise qui avait été créée en 32 par Mussolini. Il va faire tout un tas de choses pour la culture, il va mettre sur pied les grands prix nationaux du cinéma, soutenir la naissance de la Cinémathèque française, réunir les théâtres lyriques nationaux, rénover la Comédie française, nationaliser les théâtres antiques d'Orange et de Vienne, créer tout un tas de musées, le Musée de l'Homme, le Musée d'Art Moderne, le Palais de la Découverte. Je vous cite pas tout parce que c'est vraiment énorme ce qu'il a fait.
Le CNRS aussi, attention.
Voilà, il a inventé le CNRS, l'ENA aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, oh, l'ENA, c'est peut-être pas un cadeau, mais c'est vrai qu'à l'époque, sa démarche était de rendre accessible à tout le monde les postes qui pouvaient être produits par l'ENA, et pas de le réserver à certains.
Pour vulgariser et faire en sorte qu'il y ait une éducation même à la politique, il est aussi membre de la Ligue de droits de l'homme et responsable de la Ligue de l'enseignement.
Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Il voulait vraiment que la culture qu'il n'y ait pas une élite qui soit simplement servie, et que la culture, le savoir, le pouvoir, si j'ose dire, soit accessible à tout le monde. Donc effectivement, il va avoir une action absolument énorme sur l'éducation nationale moderne. Il va un petit peu la façonner à sa façon. Il la voulait démocratiser, ouverte sur la cité, avec d'ailleurs ces trois degrés primaire, secondaire, supérieur, qui vont préfigurer la réforme du collège unique de 1975. C'est lui qui va mettre en place l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, les classes d'orientation, l'heure quotidienne d'éducation physique, le brevet sportif, Il va surtout interdire les propagandes politiques et confessionnelles dans l'enseignement public. Il va promouvoir la médecine préventive. Il crée l'ONICEP, le CROUS, les bibliobus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. En fait, ce qui va énormément déranger, c'est que c'est quelqu'un qui va favoriser l'expérimentation, la pédagogie novatrice au détriment de la parole d'autorité. Et ça, à l'époque, ça va faire un petit peu grincer des dents. Et donc, un petit peu tous les réactionnaires de l'époque vont commencer à s'en faire leur ennemi, si j'ose dire.
Alors, il est mort assassiné dans des conditions pas tout à fait, pas extrêmement claires. Mais Jean Zay, c'était un politicien passionné de politique, de droits de l'homme, mais c'était aussi un poète. Un philosophe passionné de littérature. Dès son tout jeune âge, il a commencé à gagner une flopée de prix. Il a écrit un poème, un très célèbre poème, Le Drapeau, qui a été justement repris par le Front National de l'époque pour le dénoncer en tant que quelqu'un qui n'aime pas la France.
C'est ça, exactement. C'est en fait un petit peu le point de départ, ce fameux texte, Le Drapeau, qui avait été écrit, il était tout jeune.
Il avait 19 ans, je crois.
Voilà, c'est ça. Et c'était un écrit de révolte, non pas contre le pays, contre le drapeau, mais contre la guerre. Mmh. Et tout ça a été récupéré, effectivement, par l'extrême droite, qui l'a taxé d'anti-national, etc. Et donc, c'est vrai. C'est une personne qui est, comme je dis, un républicain chimiquement pur et surtout un humaniste incroyable, un petit peu naïf peut-être, on l'entend on le lit dans ses écrits, c'est quelqu'un qui au début de son emprisonnement croyait dur comme fer dans les juges, dans le pays, il avait confiance et puis très vite, une fois que son procès a eu lieu, parce qu'il a quand même été condamné à une peine hallucinante, il est condamné à la déportation, un petit peu comme Dreyfus finalement. On ne pourra pas le déporter parce que techniquement c'est compliqué à cause de la guerre. Et c'est quelqu'un qui va, en dépit de tout ce qui lui tombe sur la tête, garder un esprit qui n'est pas du tout revanchard, mais qui va garder la sérénité du juste.
Yves Mugler, restez avec nous, on poursuit cette conversation juste après. Georges Ezra et Shotgun.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Yves Mugler, vous êtes donc lecteur, vous allez lire justement des écrits de Jean Zay lors de cette édition des hivernales de documentaire. Je rappelle que c'est le samedi 12 janvier du côté de Verlac-Tescou, des écrits... donc de souvenirs et solitude, hein, des poésies, de la poésie je crois qu'il a écrit est en prison, et vous le complétez par des lettres échangées avec sa femme.
Voilà, c'est ça. Alors souvenirs et solitude, c'est pas forcément que de la poésie, il y a énormément de choses. Là, la difficulté pour la lecture, c'était de pouvoir réunir, enfin sélectionner des textes à raison d'une heure de lecture, ce qui représente pas beaucoup par rapport à ce qui a été écrit. Mais dans Souvenirs et solitude, il y a à la fois ces souvenirs de sa vie si active en politique, mais aussi des souvenirs personnels. Et puis il y a toute la... Alors effectivement, il y a un côté poétique, mais aussi un côté philosophique, un côté humaniste, un côté historique, parce que c'est un témoignage qui a une force par rapport à l'époque, à ce qu'il traverse, tout l'aspect de l'injustice aussi. C'est en fait une réflexion lumineuse sur ce qu'il traverse. C'est un témoignage en fait qui est très attachant, parce que l'homme lui-même est attachant. Il est pétri de talent, beaucoup de finesse, une intelligence remarquable, et qui reste attentif, profond parfois, sur le fait de son statut de victime d'une persécution totalement inique. Et comme je le disais, il vit cette injustice dans la sérénité du juste. Il est privé de liberté, de tout recours. Mais il va, malgré tout ça, résister avec un espoir inaltérable, en dépit de la souffrance qu'il subit et du désarroi qu'il vit. Il va évoquer donc la solitude du prisonnier avec ce témoignage de l'époque où les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun sont mélangés, les conditions de la prison, et puis tout son cas particulier de prisonnier politique. C'est quand même le premier prisonnier politique du régime de Vichy. Où du jour au lendemain, les visites et les journaux sont supprimés, puis le lendemain, c'était une erreur, soi-disant. Enfin, il y a tout le côté absurde de l'époque, de cette époque bizarre et un peu malsaine qu'on a vécue. Et lui traverse tout ça avec cette sérénité du juste à partir du moment où il voit que, et il comprend que la justice des hommes a ses limites. Il en est peiné parce que il est quand même idéaliste dans l'âme. À partir du moment où il se rend compte que la justice des hommes a ses limites, il va placer son action dans l'histoire. Il sait que le temps et l'histoire feront émerger la vérité. Et même au détriment de sa personne. C'est-à-dire, même s'il doit y passer, si j'ose dire, il met sa confiance dans le temps et dans l'histoire. Il sait que la vérité, de toute façon, finit par triompher. Et c'est là où on a un côté vraiment saisissant de son écriture et de la personne qu'il était, en s'apercevant que y a une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer la chose. Il a une foi, en quelque sorte, qui est vraiment énorme. Enfin, il y a une. En fait, c'est une parole de résistant parce que c'est quand même, ça fait partie des premiers résistants. Il était, quand il a été arrêté sur le bateau, sur le Massilia, parmi les gens qui ont été arrêtés comme lui, il y avait des gens comme Daladier, Georges Mandel, Pierre Mendès France qui a été emprisonné avec lui d'ailleurs, et puis d'autres qu'on connaît moins. Donc ce sont en fait les premiers résistants, c'est une parole de résistance, et c'est en même temps une parole de résilience. Parce qu'on de voir et d'entendre cet homme qui reste accroché à ses convictions humaines, ça devient quelque chose de radicalement exemplaire.
C'est ça qui vous a poussé à mettre ces textes en lecture, hein, en tant que vous, comédien voix off?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je cherchais à l'époque un sujet de lecture et j'étais surtout à la recherche de textes qui fassent sens, qui servent à quelque chose, si j'ose dire. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à Jean Zay, c'était à l'époque où il a été panthéonisé, si j'ose dire, j'ai découvert qui il était, parce que comme la plupart des gens, je ne savais pas qui c'était. J'ai trouvé ça incroyable de voir tout ce que cet homme avait fait, tout ce qu'il avait subi finalement, tout ce qu'on lui avait fait subir. Et de voir à quel point, malgré tout ça, cet homme avait été resté chevillé, enfin avec la foi chevillée au corps, était resté ancré sur ses convictions, je me suis dit là vraiment, c'est quelque chose d'exemplaire. Et même si le contexte et l'histoire sont un petit peu, sont pas très joyeuses, on va dire, ce qui est très lumineux et ce qui ressort de ses écrits, c'est justement cette lumière en fait. En dépit de tout ça, je continue à inscrire mon action dans ce en quoi je crois. Et je trouvais qu'aujourd'hui, ça pouvait aussi avoir un écho particulier. C'est assez regonflant, si j'ose dire.
D'autant plus qu'il l'applique aussi dans sa vie personnelle. Moi, j'ai assez hâte d'entendre les correspondances avec sa femme. Parce que, alors, il suffit d'aller sur Wikipédia et de taper Jean Zay pour avoir plus d'une dizaine de pages d'une biographie juste extraordinaire. Si en plus il a réussi à garder espoir et à mener sa vie sentimentale aussi bien qu'il menait sa vie politique, bravo l'humaniste.
Oui, alors en même temps c'était pas super facile à l'époque, hein, parce que c'est vrai qu'il a pas eu au début l'autorisation d'avoir la visite de qui que ce soit, excepté quelquefois de son avocat, Varenne. Mais quand sa femme effectivement a pu venir le voir, c'est grâce à elle, d'ailleurs, qu'on a pu avoir les écrits qui sont devenus par la suite « Souvenirs et solitude ». Parce qu'en fait, c'est Madeleine, sa femme, qui sortait les écrits de prison de Jean Zay dans la poussette de la petite, cachée.
Ouais.
C'est assez hallucinant. Et la correspondance, en fait, qui commence la lecture... Parce que donc dans la lecture, il y a deux sources. Il y a la correspondance qu'il a eue avec sa femme et des extraits de Souvenirs et Solitude. Dans la correspondance, c'est tout ce qui se passe en fait quand il est. C'est dès le premier jour de son arrestation. Dès le premier jour, il écrit à sa femme et il va lui écrire tous les jours en lui précisant bien je t'écris tous les jours, comme ça tu pourras me dire si tout. Les lettres arrivent, parce qu'il y avait la censure à l'époque aussi, hein, faut pas oublier ça. Et voilà, et donc il va tenir aussi une... C'est ce qu'on a aussi en témoignage dans Souvenirs et Solitude, c'est qu'il va s'astreindre à une discipline de fer avec un programme bien précis. Et dans ce programme, il y a une partie consacrée à la lecture, à l'écriture, au courrier, etc. Tout ça pour arriver à tuer le temps. Et ça qui est impressionnant aussi, c'est de voir comment cet homme va trouver en lui la force de tenir, de traverser tout ça. Et entre autres, une des grosses tâches du prisonnier qu'il est, mais en même temps qu'ont tous les prisonniers, c'est de tuer le temps.
Yves Mugler, vous allez nous proposer les écrits de prison de Jean Zay lors d'une lecture spectacle. Donc, ce sera bien le 12 janvier à la salle des fêtes de Verlactescu. à partir de 20h30 avec vous, mais précédé dès 17h du documentaire de Catherine Bernstein, Jean Zay, un crime français. C'est donc toute une soirée consacrée à Jean Zay, sachant que le 3 février, donc la prochaine séance des hivernales du documentaire, ce sera la projection complète du film de Claude Lanzmann, Shoah. Alors on est dedans. Merci beaucoup Yves Meugler. Je vous propose, je vais vous laisser le mot de la fin, à vous.
Merci à vous. Le mot de la fin, quoi vous dire? Je ne sais pas. Je vais peut-être vous donner un petit extrait de la première lettre, peut-être. Dimanche 18 août 1940. Mon petit amour bien-aimé. Je t'écris du bateau qui me ramène en France par une après-midi accablante de chaleur, mais qui nous vaut une mer d'huile, sans la moindre secousse, sans le plus petit balancement. Je ne puis sortir de ma cabine, toutefois, c'est la meilleure du bateau. Elle est située au milieu, sur le pont, largement aérée par 3 hublots et pourvue d'un ventilateur. Le voyage s'est effectué jusqu'ici dans les meilleures conditions matérielles. Nous avons embarqué à 16h, sans aucun incident. Le bateau ne porte que quelques rares civils et presque exclusivement des militaires démobilisés qui rentrent en France. J'occupe une grande partie de mon temps à penser à ce que je ferai quand je serai arrivé, à la manière dont je m'organiserai pour les différents problèmes dont nous avons parlé ensemble. Des solutions m'apparaissent toutes légitimes et possibles. Peu à peu, tout s'organise dans mon cerveau. Je voudrais faire passer en toi, si c'était nécessaire, toute la confiance que j'ai, toutes les provisions de patience dont je me sens rempli. Ma confiance vient de ce que j'ai pour moi le bon droit, la bonne foi, la justice, et que ce sont là des forces irrésistibles. Ma patience, je la puise dans les longues années de bonheur que nous avons eues ensemble et qui ne peuvent pas être sans lendemain. Elles mettent à ma disposition d'innombrables souvenirs qui me tiennent compagnie et me sauveront de l'isolement. Aussi, je me sens tranquille en sachant que vous veillez tous les quatre sur votre santé. Toi en particulier qui m'a promis de préparer dans le calme le doux événement de septembre. Ne songe qu'à lui, qui va venir dans si peu de jours. Embrasse bien fort ma chère petite Cato, mon cher papa, ma chère Jacqueline. Soyez sans inquiétude. J'ai toutes les raisons d'être encouragée, toi aussi par conséquent. Je t'embrasse mille fois, mon amour chéri, bien-aimé, et te serre longuement, bien fort, sur mon cœur. Jean.
Yves Meugler, on sent bien le lecteur comédien voix off, hein, tout de même dans cette performance, la lecture donc des écrits de prison de Jean Zay. Les hivernales du doc.free.fr pour connaître tous les détails de la programmation de ce festival, les hivernales du documentaire. Merci beaucoup Yves.
Merci à vous.
Et puis à samedi.
À samedi, avec plaisir.
Vous pouvez retrouver tous les podcasts du Mag du Tarn-et-Garonne sur notre site cfmradio.fr, rubrique le Mag du 82. Et je vous laisse avec Charles pour le journal régional. À demain.